Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bah, on a repris les bonnes habitudes. Hein. Après l'émission de la semaine dernière, délocalisée à la maison du handball de Créteil, eh bien, on a retrouvé nos studios. Alors, on aura beaucoup de choses à vous raconter. On ira donc à partir de 19h30 rejoindre le réalisateur Fabien Bouillot hein, pour un prochain film. All Shot, qui notamment nous contera la vie d'Axel Alétru. Vous allez voir un personnage particulièrement atypique. On aura naturellement un gros journal des sports avec donc, notre ami Alexandre. On s'est régalé ce week-end, notamment avec le marathon de Paris et Paris-Roubaix. Et puis naturellement, le point foot de la semaine, notamment aussi avec le bon match du Paris Saint-Germain. C'est Stéphane Dezenclos que nous retrouverons. Et puis, c'est une tradition, deuxième lundi du mois, on commence avec la rubrique MMA. Je vais saluer mes invités, qu'on connaît pour certains. Bonsoir Benoît, ça va ?
Bonsoir tout le monde, oui pleine ça va super et toi ? En ouais, pleine forme, très content.
Donc il s'est passé beaucoup de choses hein, en MMA.
Bah, il s'est passé beaucoup de choses, d'ailleurs aujourd'hui on a une émission spéciale,
oui.
Puisqu'on a, on a des invités, donc oui. Du coup on a la FFA Academy qui est venue nous rendre visite.
Voilà.
Et on va notamment parler du dernier combat de Nicolas Bivol avec Mathieu Nicourt. Et bien évidemment, on va aussi parler du dernier combat de Christopher Odena.
Alors, justement, il y a des habitués. On va saluer mon ami Mathieu Nicourt. Ça va, Mathieu ?
Ça va bien, merci.
Ben, je suis content de te voir.
Ça fait plaisir aussi.
Ça va le bouquin ? Il se vend bien ?
Écoute, il se vend très bien. Je te remercie. On pourra peut-être refaire un petit coup de promo.
Bien sûr.
Bien.
Et puis, quelqu'un qu'on connaît aussi, c'est Christopher Odena. Bonsoir, Christopher.
Bonsoir.
Ouais. Ça va bien ? Ouais, ça va depuis la dernière fois ?
Ouais,
autant. Voilà. Et puis lui, c'est sa première radio, c'est Nicolas Abivol. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous.
Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé dans cette actu très dense sur le plan MMA depuis le début mars, hein, depuis qu'on s'était vu ?
Bah du coup, depuis le début mars, comme on l'avait annoncé à la radio, on avait dit qu'il allait avoir un gros combat auprès d'Hexagone MMA. Donc forcément, on attendait justement le combat de Nicolas Abivol face à Wilson Varela. Combat qu'on attendait beaucoup, puisque c'est aussi le retour de Wilson Varela, et c'était l'opportunité pour Nicolas Bivol d'obtenir la ceinture du coup des lightweight, si je dis pas de bêtises. Et du coup, combat qui malheureusement s'est conclu par une défaite pour toi Nicolas, et on aurait voulu revenir avec toi sur ta prestation. Déjà, comment tu t'es senti après le combat, et comment tu as ensuite vécu la fin du combat malheureusement? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus?
Bah, déjà après le combat, je me suis senti pas bien parce que j'ai perdu. C'était un combat très important pour moi. En jeu, il y avait la ceinture et du coup, on n'a pas réussi à le prendre. Mais après, je comprends très bien, c'est un combat, on est deux combattants. Il n'y a qu'un qui gagne, donc lui, il a été meilleur dans ce combat et félicitations à lui.
Qu'est-ce que tu as trouvé qu'il t'a manqué durant ce combat pour justement aller décrocher cette ceinture?
Je pense que je me suis trop... j'étais trop vite, je voulais trop vite chercher la finish et donc j'ai pas géré bien les situations. Du coup, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté la victoire.
D'accord. Et on va dire sur l'aspect collectif, Mathieu, puisque c'est quand même ton combattant, comment tu arrives justement à dans ce genre de situation, c'est-à-dire qu'il y a un gros combat et ensuite il y a un résultat, qu'il soit positif ou négatif, comment ensuite tu récupères ton combattant, qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de faire en sorte que, j'ai envie de dire, la voiture continue de rouler, en fait, simplement qu'elle ne s'arrête pas sur cet échec.
En fait, je pense que déjà, pour qu'elle continue de rouler, il faut faire attention à l'entretien avant l'accident.
C'est pas mal ça.
C'est-à-dire que je pense que Nicolae, ça fait un moment maintenant qu'il est préparé à ses échéances. Il était bien sûr sur une belle série de victoires. Mais en tout cas, on le sait et les combattants le savent, la défaite, ça fait aussi partie du jeu. Et surtout, bah, il savait qu'il affrontait un très très grand combattant, un très très grand nom. Donc le risque, là, forcément, était encore plus important. Mais en tout cas, Ce que je lui dirais après, c'est, enfin, ce que je lui ai dit, c'est que de toute façon, il pouvait être fier déjà d'être arrivé là où il en était. Et puis, que voilà, c'est que partie remise. La défaite, ça fait partie du jeu aussi. Je crois que le point fort de Nicolas aussi, c'est qu'il est, c'est quelqu'un de solide mentalement, de stable, qui sait analyser la situation. Il y a eu quand même, évidemment, le combat s'est terminé trop vite à notre goût, mais il y a eu quand même des belles choses dans ce combat. Nicolas a montré qu'il pouvait mettre en danger un combattant de la trempe de Varela, qui a été touché à un moment. Peut-être, après, c'est toujours avec des si, on peut refaire le monde.
Bien
mais
sûr.
On s'est demandé si s'il avait continué à accélérer à ce moment-là, est-ce qu'il aurait pu mettre fin au combat. Mais il y a le risque de se fatiguer.
Bien
peut-être
sûr.
Que Varela serait malgré tout revenu. Donc, voilà, on peut pas refaire le combat, mais en tout cas, il y a eu un moment où Wilson, dans le combat, a été surpris et a été mis en difficulté. Donc, je pense que c'est de bon augure pour Nicolas. Et surtout, je pense que Wilson, il est à son prime. Nicolas, il a encore une marge de progression.
Oui. C'est comment, vrai. Ouais, comment on gère une défaite ? Le manager et puis le sportif. Comment on gère une défaite ? C'est-à-dire, comment on vit les jours qui suivent ?
Ça dépend du personne, je pense. Moi, personnellement, j'étais un peu dégoûté. Je pense que même les premières heures j'étais dégoûté.
Les deux, trois jours qui suivent.
Mais après les deux, trois jours, j'étais en train de réfléchir juste pour revenir plus vite à l'entraînement et du travailler sur les choses que je n'ai pas bien fait dans le combat et du progresser plus en plus sur les choses qui me manquent.
L'erreur concrètement dans le combat, ça a été surtout, du coup, ça a été au sol, si je peux me permettre, parce qu'au niveau du striking, clairement, tu as rivalisé avec lui. Moi, c'est vrai que dans les premiers temps du premier round, on est vraiment surpris. Hein. On voit vraiment que Varela, il est pris de court. Il y a beaucoup de coups que tu t'envoies beaucoup d'enchaînements. Il y a même un moment donné qui m'a vraiment marqué, c'est on sent que tu es pris par... vous êtes pris, vous commencez à vous envoyer des coups et ça commence à rentrer en phase de bagarre. Et là, tu te temporises de toi-même. Tu temporises un peu le jeu et là, tu retournes et ça fonctionne. Et je me suis dit, ah ok, là, on sait qu'au niveau striking... Ils sont tous les deux au même niveau.
Je pense que... Je m'excuse pas.
Vas-y, non, mais je t'en prie.
Je pense que ça a été pour la première fois quand j'ai attendu mon coin dans les combats. Là, j'ai attendu mon coach, et l'autre coach, Abdallah. Il m'a dit, tu l'as pas touché, te jette pas. Et moi, là, je me suis calmé un peu. Et donc, voilà, j'ai commencé un peu de gérer la distance, tout ça, pour que je fasse pas des erreurs plus graves.
Bien sûr. Est-ce que là, du coup, pour la suite... T'as déjà une projection sur ce que tu dois travailler et sur si quelles sont tes futures ambitions, parce que on s'est permis quand même, bien évidemment, enfin nous sur les réseaux sociaux on a émis l'éventualité de qu'il y ait une revanche, parce qu'on voudrait qu'il y ait une revanche, parce que ça s'est fini rapidement, et mais on a vu quand même deux combattants à niveau égal sur l'instant T.
Premier, donc, deuxième round, non?
Non, ça c'est le combat a duré qu'un round, mais un round super intensif. Et donc du coup, c'est un peu la frustration du MMA parce que c'est ce sport. Et donc du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a quand même pour ambition de peut-être aller vers une revanche ou aller vers d'autres horizons? Qu'est-ce que tu projettes pour l'instant?
Oui, bien sûr. Déjà, on va voir. Il nous reste un combat avec Hexagone, donc on va voir comment ça va se passer. Parce que là, j'ai parlé avec mon coach Mathieu Nicor pour combattre déjà au mois de juin.
Okay.
Peut-être avec KSW. On va voir. J'ai pas de réponse encore de retour. Donc si c'est pas eux, peut-être avec Hexagone, on va voir. Mais par rapport au combat, donc bien sûr, j'ai remarqué qu'il faut que je travaille encore plus le sol, donc les défenses du sol, et il faut que je les sorties, tout ça dans le grappling. Et donc je pense que c'est sur ça que je vais me concentrer plus là pour la prochaine préparation et même pour les prochains combats. Et après, voilà, moi il parlait que voilà, il est mieux que moi en strike, et je pense qu'il y avait ça dans ma tête, que voilà, dû lui montrer que je suis beaucoup mieux, pas beaucoup mieux, je suis mieux que lui en strike. Et donc je pense que c'est ça qui m'a un peu mis en difficulté, parce que j'étais trop concentré dans ça, de lui montrer voilà, mon strike. Mm. Et quand on s'est pris en clinch, donc il m'a impressionné avec son sol, avec son travail au sol. Okay. Donc il m'a bien bloqué, il a bien géré ses situations et les mouvements. Mm. Et donc voilà, on est arrivé dans son triangle.
C'est d'ailleurs ce qu'il avait mentionné, Wilson Varela, il avait dit qu'il voudrait justement prouver qu'il a un excellent niveau au sol. Et il l'a un peu prouvé, on va dire, lors de cet événement. Moi, j'avais aussi une autre question pour toi, Mathieu. Tu as des combattants qui sont super actifs. Et comment tu fais pour gérer autant de combattants qui enchaînent les cartes à une échéance très, très courte? Comment ça se passe, la préparation? Est-ce qu'il n'y a pas, par moment, un peu peur pour tes combattants? Puisque aujourd'hui, la Free Academy, a quasiment sur les derniers événements d'Hexagone, a quasiment toujours proposé un combattant. Là encore, il me semble qu'il y en a un prochain. Il y a un prochain combattant de la FFA qui va combattre, qui a peut-être déjà combattu, je ne sais plus. Mais c'est un groupe. Du coup, c'est une écurie qui est très active. Comment tu gères tout ça?
Alors, en fait, la façon dont je le gère, c'est que déjà, je ne suis plus tout seul.
Okay.
C'est-à-dire que je délègue de plus en plus certaines tâches. C'est-à-dire que la FFA, pendant très longtemps, j'ai cumulé toutes les casquettes seul. Mmh. Et bien évidemment, maintenant que ça grossit, je ne peux plus le faire seul. Donc il y a une équipe aussi d'encadrement qui grossit, qui sont très souvent des anciens élèves. Nicolas parlait d'Abdella Belaoui, oui. Qui était un enfant quand il a commencé au club. Okay. Et qui est devenu coach, qui se passionne pour cette tâche-là. Qui m'appuie beaucoup sur le. S'investit beaucoup dans le coaching des combattants. Mmh. D'autres anciens élèves qui commencent à y prendre de plus en plus part. Gary Décordé. Je crois que le point fort du groupe, c'est que c'est surtout un esprit d'équipe, un esprit de groupe. Là, on a Nicolas et Christopher aujourd'hui, donc au Monstro. Moi, ce qui me fait à la fois plaisir et qui fait notre force, c'est qu'ils ont commencé en même temps. Ils font tous les deux partie de la nouvelle équipe que j'ai montée au moment de l'épidémie de Covid, au moment où j'avais pris une année et demie, moi, où je gérais le club à distance, et ils sont arrivés au moment où je remontais une nouvelle équipe à la Free Fight Academy. Donc, c'est évidemment... un plaisir de les voir tous progresser, tous avancer dans leurs objectifs sportifs et autres. Mmh. Et je pense qu'il y a cet esprit de camaraderie et de groupe qui est une grande force aussi au sein de la FFA.
C'est super parce que ouais, ça se ressent. On le voit, d'ailleurs, il y a Christopher qui était présent lors du dernier combat de Nikolai. J'aimerais également revenir toi sur tes derniers combats, Christopher. Mmh. Il y a plein d'aspects dont on voudrait parler avec toi. Autant l'aspect sur les combats, mais aussi sur l'aspect entertainment, parce qu'il faut savoir que tu es un homme de l'entertainment, tu aimes beaucoup divertir. On a failli ramener des pop-corns d'ailleurs, pour te faire la petite blague, parce que tu aimes bien ramener des pop-corns. Comment toi, tu as pu vivre ton dernier combat face à Wally Tandja, excuse-moi. Et surtout, ça a été l'un des combats qui a été le plus vu, je crois, qui a généré le plus d'audimat. Mm-hmm. On a vu ça à travers sur les réseaux sociaux. Ouais, beaucoup de com là-dessus. En partie... grâce à ton implication, même, je dirais même personnelle.
Ouais.
Comment t'as vécu toutes ces étapes, c'est-à-dire l'après-combat comment t'as vécu le combat, l'après-combat, et aussi comment tu t'organises sur toute cette com que tu mets en place, parce que vraiment c'est assez impressionnant à l'échelle française, de mettre autant de com et que ça fonctionne, et j'ai l'impression que t'es un peu tout seul quand tu t'organises au niveau de la com.
Ouais. En vrai, c'est que sur des idées... Et on va dire sur des coups de tête, hein. Mmh. C'est vraiment pas prévu. On essaye de trouver des idées sur le moment et puis et ça marche, c'est tout.
Okay.
Tu vois. Et après, il faut être deux combattants pour vraiment faire le show, tu vois.
Bien sûr.
Ouais, c'est-à-dire que
c'est un talent qui est assez naturel, je crois, chez Christopher. Et là, il y avait Wally Tandja qui aussi était un bon client. Je crois qu'ils se sont bien répondu l'un à l'autre et que c'était le match parfait.
C'est les deux rassemblés. Je savais qu'on pouvait faire un bon truc, tu vois.
Ouais. Tu m'avais dit en dehors des réseaux sociaux ou en dehors de la radio que avant même le combat, tu avais déjà spoté son profil et tu savais que tu pourrais faire quelque chose d'intéressant avec lui.
Exactement.
Et c'est pour ça que quand tu me dis que c'est un peu ça vient comme ça, je suis en mode mais quand même il a de la vision en fait. pense ouais. que je te l'avais dit même en conférence de presse, est-ce que tout ce que tu as fait, c'était pas prévu? Franchement, ça a clairement abouti sur les résultats. Mmh. Je me permets pas de parler du combat. Du coup, tu as eu une défaite face à lui.
Ouais.
Mais par contre, le public t'a redonné tes fleurs. C'est-à-dire que dans les commentaires sur les réseaux sociaux, c'était assez impressionnant. C'était « Ah, ok, il a 40 ans, il a réussi à tenir 3 rounds face à un jeune. Le monsieur force le respect. » Il y a d'autres personnes qui veulent se dire « Ah, ok, au final, peut-être que je devrais commencer les MMA, ouais. c'est possible. » En fait, les gens se disent, grâce à toi, grâce à ton exemple, « Ah, en fait, c'est possible de reprendre le sport. » Et du coup, je me demande toujours, est-ce qu'il a vraiment conscience de la portée de son action à travers la portée de son action tout court, en fait?
Ben en fait, t'en as vraiment jamais conscience, tu vois.
Mm-hmm.
Mais tu te donnes. Tu fais tout en sorte pour que ça arrive.
Mm-hmm.
Et après, c'est dans les mains de Dieu.
Bien sûr.
Tu vois,
ouais.
ça vient. Et puis voilà.
Bien sûr. On sent que je dirais que ce qui est assez propre dans votre groupe, c'est que on sent que l'aspect coaching est présent, les personnalités avec leur style de jeu est bien défini, comme Nicolas, et qui est très défini. Bon, voilà, faut le dire, t'es ceinture noire de taekwondo de base et t'as réussi à vraiment compléter ça, oui.
Mmh.
Compléter ça avec la MMA, et du coup, t'es un combattant. Avec le MMA, excusez-moi. T'es un combattant complet. Et on voit que toi, sur l'entertainment, t'es très à l'affût, puisque voilà, tu crées du divertissement, t'arrives à créer de l'audimat autour de toi.
Mmh.
Et c'est exactement un peu les deux composantes du MMA aujourd'hui, c'est qu'il faut à la fois être sportivement, être présent. Et au niveau divertissement, être présent pour faire en sorte que les gens regardent.
Ouais, c'est
et je me demandais si vous avez des retours collectivement sur tout ce qui a pu se passer après, quand vous regardez un peu en arrière, vous dites « Ok, sur l'aspect sportif, voici les résultats qui sont tombés », mais aussi sur le fait que les gens s'intéressent à vous, à ce club-là, comment ça se passe ?
Après, c'est aussi un peu grâce à le MMA aujourd'hui.
Mm-hmm.
Le MMA a grandi et puis on fait nos devoirs, j'ai envie de te dire. On va s'entraîner tous les jours, on s'entraîne 4 heures par jour et voilà.
4 heures,
c'est ça.
Voilà, je sais pas si c'est vrai, mais en général, il y a beaucoup de monde qui me dit que voilà, je les motive.
Ouais.
Que par rapport à ça, que je fais les combats en professionnel, que je m'entraîne au MMA, tout ça. Mm. Même en Moldavie, même ici, des Moldaves, les mecs du pays de l'Est, tout ça. Donc, il y a trop déjà qui arrivent à la salle, même. S'il reste pas beaucoup, mais il vient, il essaye, et voilà, pour voir comment ça se passe et s'il peut faire ça aussi.
Nicolas, on te surnomme le plus français des Moldaves. Là, tu viens de parler de la
communauté. Il parle bien français en plus.
Exactement. Donc, le plus français des Moldaves, pourquoi le plus français des Moldaves? Parce que tu as quand même une grosse communauté moldave derrière toi te lâche pas. Franchement, le soutien est magnifique à regarder. Comment tu le vis? Comment tu apprécies ce geste?
Si on parle du dernier combat, ça, c'est ça qui m'a tué le plus, que je n'ai pas pu ramener la ceinture pour eux.
Mmh.
Parce qu'ils étaient énormes. Mmh. Il y avait du monde. Le soutien, je l'ai senti franchement à l'intérieur de mon cœur. Donc, après le combat, ils sont venus tous, presque tous à l'hôtel. Donc, je pouvais pas, j'étais très émotionné là-bas, donc je les remercie beaucoup à tous. Je suis toujours fier d'eux parce que voilà, ils sont toujours à côté de moi et n'importe défaite soit victoire, ils sont toujours avec moi.
Franchement, sincèrement, ça fait plaisir à regarder parce qu'ils sont toujours là. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est toi qui leur fais du bien. Je sais qu'eux te font énormément de bien, mais moi j'ai l'impression que c'est eux aussi tu leur fais énormément de bien parce que j'ai l'impression qu'il y a cette demande d'avoir quelqu'un qui les représente en France. Et aussi qui les représente, mais à un haut niveau. Et on va dire que toi, tu es au haut niveau sportif. Donc, je pense que ça leur fait plaisir. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut que ça continue, d'ailleurs. Sur les réseaux, en tout cas, on le voit. Et même en présence, on le voit. Donc,
Oui, c'est vrai. Parce que les Moldaves, on va dire, voilà, je parle des Moldaves maintenant.
Mmh.
Ils savent très bien qu'en Moldavie, c'est très dur de monter avec le sport, tout ça. Mmh. C'est, là-bas, il y a besoin d'argent. Il y a besoin d'investir pour monter dans le sport. Et quand eux, ils voient que moi, je suis là et j'ai arrivé petit à petit à monter où on est aujourd'hui. Donc, bien sûr que ça leur donne de la force, ça leur donne du motivation aussi. Mm-hmm. Et ils sont fiers de nous, de notre nation. Voilà,
Mais tous les supporters qui viennent, ils vivent en France ou ils viennent aussi de Moldavie?
En général, oui, ils sont là en France. Mais il y en a aussi qui viennent du...
C'est fou, c'est incroyable, c'est bien.
Les pays qui sont à côté de France.
La Belgique, ouais, c'est bien quand même.
Je me posais la question, est-ce que le MMA, il est assez répandu ou pas en Moldavie?
Oui, maintenant, avec, voilà, comme il a dit Christopher, le MMA en dernier moment, il a bien progressé, donc il a bien monté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Moldaves qui pratiquent le MMA et qui combattent dans des grosses organisations comme UFC, Octagon, KSW. Ouais. Voilà, il y a des bons gars qui sont très talentueux. Voilà. Et moi, je suis aussi fier de ça parce que personnellement, je ne les connais pas parce que voilà, ça fait déjà un moment que je suis en France. Mais quand je vois qu'il y a un Moldave sur des cartes, des plus gros cartes du monde, ça me fait plaisir aussi. Donc, je pense que c'est là, voilà, c'est les mêmes émotions quand quelqu'un me voit.
Bah, c'est sûr. Bon, d'ailleurs, Christopher, toi, c'est un peu à une faible échelle puisque tu es d'origine haïtienne.
Ouais.
Et du coup, il y a de plus en plus de combattants d'origine haïtienne également qui se lancent dans le MMA. Et on sent qu'ils essayent tous de se suivre un peu les uns les autres.
Ouais, c'est ça.
Et je pense que si ça continue comme ça, on va avoir aussi une troupe d'Haïtiens qui vont venir te soutenir.
J'espère. De toute façon, qui même me suivent.
Exactement.
Et moi, j'aime tout le monde, donc c'est parfait.
Ça c'est super. Est-ce que là, du coup, toi, pour l'avenir, tu as une ambition particulière? Qu'est-ce que tu prévois sur ces
prochains
combats?
Il me reste encore deux combats à Hexagone.
Ok.
Donc, on va les faire comme il se doit et puis après, on verra.
Ok.
On verra ce que l'avenir nous dira.
Bon, on espère quand même que ça va continuer, bien sûr.
Bien sûr, on lâche
avec
pas.
Avec Hexagone, puisque voilà, en termes de divertissement, t'es au top du divertissement sur la carte de l'Hexagone.
Mm-hmm.
Et sur l'aspect collectif, toi, Mathieu, qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Puisque voilà, on sait que t'es aussi matchmaker, donc. Comment ça se passe? Qu'est-ce que la FFA prépare de nouveau?
Alors, on a. D'abord, il y a la continuité de la carrière de combattants comme Nicolas ou Christopher, mais il y en a aussi de nouveaux qui arrivent. Là, il y a un Hexagone qui va avoir lieu aux Pays-Bas bientôt, où il y a Magomed Oumalov qui va faire ses débuts pro, qui a commencé cette saison à la Free Fight Academy, qui est d'origine d'Agastanaise. On avait vraiment une académie internationale pour le coup, mais qui a déjà une grosse expérience en sambo combat, mais qui va faire ses débuts en MMA professionnel. Qui va prendre Blyden, un combattant hollandais beaucoup plus expérimenté que lui, qui est très fort, que personne ne voulait prendre. Lui a accepté de le prendre, donc c'était sa chance de rentrer Hexagone aussi, de se faire voir et de construire une carrière en France. Donc on attend ce combat-là avec impatience. Et on a, au niveau international, sur le même événement que Nicolas, on a Parwez Arabzai, qui est d'origine afghane, lui, qui avait perdu son dernier combat. Donc il a revient sur une victoire. Donc en fait, c'est la vie des sportifs qui continue et un groupe qui continue de s'étoffer. Aussi, et je pense que tous ils s'apportent les uns aux autres.
Ok, c'est super. Moi, j'avais aussi une question, c'est que là, c'était plus pour toi, Nicolas Ibivol. Voilà, c'est toi qui vas un peu déterminer ton avenir dans l'Hexagone, etc. Lors du dernier combat face à Hussein Varela, je suis obligé de parler d'un certain monsieur Amin Ayoub, qui était un peu là en tant que, j'ai envie de dire, élément perturbateur de cette confrontation. Les cartes, elles sont un peu rebattues. Si tu avais la possibilité de les rebattre, est-ce que tu voudrais d'abord passer par Amin Ayoub avant de possiblement réaffronter Wilson Varela s'il a encore sa ceinture?
Pour moi, il n'y a pas d'importance qui est devant.
D'accord.
Déjà, on ne savait pas que Wilson il va revenir. On a attendu qu'il s'arrête. Donc, je ne l'avais pas dans ma tête. Et bien sûr que je demandais à Amin Ayoub quand il est arrivé à l'Hexagone, donc il a commencé tout de suite à demander la ceinture. Après, voilà, il a combattu avant l'Hexagone, il a combattu chez Ares, donc là-bas il a une série de victoires et il peut demander la ceinture de Ares. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait là-bas, mais voilà, il est venu chez Hexagone pour demander à Hexagone. Donc je lui avais dit, mon frère, il n'y a pas de souci, peut-être tu mérites la ceinture, mais pas d'Hexagone, la ceinture d'Ares. Et si c'est moi que je suis à 5-0, sans défaite, donc c'est moi en premier qui le mérite. Et si tu veux, on peut le faire ensemble, on va voir qui est le plus fort.
Okay.
Mais voilà, et lui, il a lui et son équipe, ils ont dit qu'ils ont besoin de quelqu'un plus expérimenté, avec un bagage plus gros en combat. Et du coup, ils ont cherché d'autres combattants, pas moi. Mm-hmm. Mais moi, j'ai parlé avec mon coach, mon manager. J'avais dit que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux bien la ceinture.
Ouais,
et
forcément.
Voilà, si on ne fait pas la ceinture, donc ça va changer beaucoup de choses. Bah, et voilà, mon manager, même si ce n'est pas Amin Ayoub, il a essayé de me trouver un bon adversaire. Et ça s'est bien tombé. C'est Wilson qui a repris sa carrière. Donc voilà.
C'était parfait, en fait.
Oui, ça a été très parfait pour moi. Franchement, même si j'ai perdu, j'ai pris d'expérience. Ça a été un très beau combat. Franchement, je ne regrette pas du tout. Je sais que ça, c'est que de l'expérience et qu'il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Ça, c'est que de motivation.
Bien sûr. Petite question encore une fois pour toi, Christopher. Là, s'il y avait un adversaire Hexagone qui t'intéresserait, est-ce qu'il y en aurait un ou deux?
J'ai vu...
Il me semble qu'il y en a un qui t'a call out, qui t'avait call out sur tes vidéos.
Ouais.
Ça n'a pas fait de bruit. Ouais. Mais est-ce que peut-être c'est lui?
En fait, il m'a call out sur les réseaux. Mm-hmm. C'est vrai. J'étais là son dernier combat.
Oui.
J'ai commenté. Je voulais rentrer dans la cage, moi.
Ah.
Mais on lui a proposé, il a dit non.
Ah oui, forcément.
Et après, on lui a dit qui tu voudrais combattre par la suite. Il n'a pas dit mon nom.
Mm.
Donc, je ne sais pas.
Ok.
Tu vois? Mais ouais, j'aurais bien aimé Lévi Cariel.
Ouais.
Ouais.
Pas mal.
Il a mis un KO au bout de 5 secondes.
Surtout qu'il a mis un KO très très impressionnant.
Voilà. C'est vrai.
Très, très
impressionnant. Exactement, au bout de 4 secondes.
Ouais.
Donc niveau divertissement, je pense qu'on est...
On est là.
On est bien.
Ouais, clairement. Clairement, clairement.
Pourquoi pas, ça serait bien.
Peut-être qu'il est discret aussi, il veut pas des trash talk.
Ouais, peut-être aussi. Ouais.
En fait, c'est assez drôle parce que sur...
Mais sur les réseaux, il... Ouais. Trash talké quand même.
Il a trash talké un peu sur les réseaux, mais...
Après, il m'a bloqué.
Le petit malin.
Ouais, je suis un parasite, moi aussi. Ouais, je suis un petit parasite aussi, tu sais.
Ah bah c'est clair. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, moi, je me posais la question parce que je sais que voilà, t'es un peu dans le show. On a un peu toujours l'impression que dans le MMA, c'est que les gens, ils aiment bien call-out, les gens... Mais dès que l'adversaire a une défaite, ah non, au final, on ne veut plus.
Oh.
Ouais, donc c'est un peu... Sur la scène sportive, c'est pas ouf.
Ouais.
Mais moi, en tout cas, j'espère que l'opportunité va se présenter parce que je trouve qu'il y aura une belle adversité. Et surtout que, ouais, je pense qu'il saura répondre au divertissement que le public demande.
Bien sûr.
Parce que malheureusement, le public du MMA est un public ingrat, il faut le dire. Donc certes, ils aiment le sport, mais ils aiment beaucoup les clashs, etc. Et parfois, il faut en créer, bien évidemment, dans le respect, bien sûr. Pour mais ça reste du divertissement, mais il faut en créer pour que ça fonctionne bien. Donc voilà quoi. Je sais pas si tu as un petit mot, Philippe, à rajouter.
Non, je voulais vous remercier pour ce point très très complet, hein, Benoît. Juste un petit mot, 30 secondes, le livre, ça en est où?
Alors le livre, ça avance bien.
Ouais.
J'ai engagé quelqu'un un petit peu pour travailler sur la com, aider mon éditeur dans ce sens. Pour l'instant, le livre était disponible en format papier uniquement et il va passer en format KDP très prochainement là aussi, donc pour pouvoir toucher un public encore plus large.
Voilà. Bon, c'est bien, tu viendras nous en reparler en même temps que le MMA. Énorme merci, Benoît. Oui, tu as juste quelque chose à rajouter.
Si tous les deux auraient un dernier mot pour leurs fans qui les suivent, il y a beaucoup de fans qui vous suivent, donc les gars, dernier mot pour eux, ils le méritent.
Je peux le dire, voilà, il faut être toujours respectueux. Je vais dire vite fait, moi j'aime bien que mon façon d'être, ça change aussi mes combattants, mes adversaires, parce que même Wilson, Amin Ayoub, ils sont un peu avec le trash talk, tout ça, sur les réseaux. Mais moi, avec mon être mon façon d'être, j'ai réussi à les mettre en situation plus respectueuse, donc face à moi, face à moi. Et donc, mon message doit être plus respectueux et voilà, pratiquer le sport.
Yes. Et toi,
moi, je dirais, faites vos devoirs. Rien n'est impossible. J'ai commencé le MMA à 36 ans.
Ok.
Et regardez où on en est.
Magnifique.
C'est jamais trop tard.
Voilà.
Très bien, messieurs. Énorme merci en tout cas. Puis rendez-vous le mois prochain, Benoît.
Yes.
Hein, merci pour ce gros point.
Merci à eux d'être venus.
Il y avait
merci
à eux d'être venus. Oui, bien sûr. Allez, une petite pause musicale et ensuite on va continuer. On va voir en direct donc, le réalisateur de télé Fabien Bouillot qui va nous parler, vous allez voir, d'un homme hors du commun, Axel Alétru. On y va. Voilà, donc comme prévu, ben on va maintenant donc avoir au téléphone le co-réalisateur avec Stéphanie Pilonka de All Shot, hein, le fameux documentaire qui va passer le 17 avril prochain à 21h sur Canal Plus Doc, hein, et qui relate une grosse partie de la vie d'un homme hors du commun, Axel Alétru. Fabien, bonsoir. Oui, alors Fabien, d'abord, dans quel état d'esprit on se trouve comme ça quelques jours avant la sortie de ce documentaire chez nos amis de Canal+?
Oh, écoutez, en fait, on a fait le plus dur, nous, donc on est tranquille, ça nous appartient plus. Ouais, donc, il y a toujours une joie que ça puisse être partagé avec le plus grand nombre. Mais après, ça nous appartient plus, donc on a hâte que les gens le voient, en tout cas.
Oui, alors on va rappeler, hein, que ce documentaire qui a été fait, qui s'appelle All Shot, un virage pour la vie, qui est un petit peu le prolongement du livre qu'avait écrit donc Axel Alétru, et toujours rebondir avec la journaliste Peggy Olmi. C'est un petit peu le prolongement. Hein.
Oui, en fait, non, parce qu'en fait, on a commencé le tournage du documentaire avant que le livre soit écrit. Donc c'est le prolongement de la vie d'Axel, parce que Axel a fait ça juste après le documentaire, et nous on avait terminé en août, Mais c'est toujours un petit peu long avant que le documentaire soit diffusé. Donc, il y a eu au moins 6 mois entre la fin du documentaire et sa diffusion. Donc voilà, on est plutôt dans la continuité. Enfin, eux sont dans la continuité. Enfin, le livre est dans la continuité du documentaire. Je vais y arriver.
D'accord. Bon, comment s'est faite cette rencontre avec Axel?
Alors en fait, c'est donc Stéphanie Pilonka, ma co-réalisatrice, qui a rencontré Axel lors du tournage d'un documentaire sur Olivier Goy, qui est atteint de la maladie de Charcot. Et Olivier donc allait à la rencontre de plusieurs figures pour parler du dépassement de soi et du handicap. Et donc Stéphanie a rencontré Axel. Et puis bon, il nous a raconté son histoire et il y a eu un coup de cœur et c'était comme une évidence. Ils se sont topés dans la main, ils se sont vus 3 jours, et puis au bout de 3 jours, ils se sont dit allez, moi j'ai envie de faire un documentaire sur toi, et c'est parti comme ça, quoi. Et c'était vraiment une évidence vu l'histoire d'Axel.
Oui, c'est vrai que je le disais en préambule, pour l'avoir un petit peu côtoyé comme vous, c'est quand même un personnage hors du commun, quoi. C'est exceptionnel quand même.
Oui, complètement. Il y a énormément de lumière, il y a énormément d'énergie. C'est quelqu'un qui peut déplacer des montagnes, qui sait très bien où il va, qui a foi en sa direction. Il sait très bien où il va et en fait, il entraîne tout le monde avec lui. Donc, quand on est parti dans l'aventure avec lui, encore une fois, c'était une évidence. Il nous a emmené le plus loin possible avec lui et on a eu un tournage fantastique.
Oui, alors ça a été facile de trouver sa place pendant ce tournage avec toute la famille. Chacun a pu donc travailler tout à fait correctement.
Oui, complètement. Ils nous ont ouvert leurs portes. En fait, Axel avait très envie de faire ce documentaire aussi. On ne lui a pas trop forcé la main. Hein. Il nous a plutôt encouragé. Donc, forcément, après, il nous a ouvert toutes les portes de sa famille. Sa famille a été, en tout cas, sa famille. On a beaucoup vu sa femme et ses enfants. Les parents, on les a vus un petit peu moins parce que les parents habitent à la moitié de l'année aux États-Unis. Donc, on s'est vus sur la fin du tournage où on a pu se rencontrer, faire une interview. C'était pas la même histoire avec les parents, mais ils nous ont accueillis avec les bras ouverts, mais c'était plus difficile pour eux de témoigner. Mais ils ont tous mis tout en œuvre pour qu'on soit le mieux accueillis possible.
Ouais, alors c'est un film très poignant, hein, très émouvant. Hein. On va quand même très brièvement, pour les auditeurs, rappeler un petit peu ce qui se passe. Axel, c'est quelqu'un qui a découvert le sport très, très jeune, hein, qui a commencé par le BMX, et puis ensuite, où il devient déjà, avec de très bons résultats, un des meilleurs sur le plan français puis européen. Il passe naturellement au motocross, hein, puisque son papa en faisait. Et là, en Lettonie, c'est l'accident, donc en juillet 2010. Il se retrouve paraplégique partiel, hein, pas complètement, paraplégique incomplet, comme il dit. Et malgré tous les pronostics, il a réussi à gagner son pari de remarcher.
Oui, tout à fait. C'est l'histoire est juste incroyable, hein, parce qu'effectivement, quand il revient, il se fait opérer la première fois, totalement paraplégique. Et on lui dit, écoutez, Axel, votre vie sera en fauteuil, et puis les sports de haut niveau, ce sera fini, quoi. Et il n'entend pas ça, en fait. Il ne veut pas entendre. Et il se dit, moi, je veux absolument remarcher, et je veux refaire du sport. Avec une force mentale incroyable, parce que ça, c'est une des caractéristiques d'Axel, moi, que j'ai découvert et qui me fascine. Ouais. C'est cette capacité hors norme de projection mentale et d'être sûr de lui et se dire bon, je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça va se passer, donc je vais réussir à me remettre debout. Avec toute sa volonté et toute son énergie et des 2 ans de rééducation, et il a réussi à se remettre debout. Maintenant, il peut marcher. Alors, il ne marche pas complètement, évidemment. Il peut marcher 1 ou 2 kilomètres max. Mais déjà, c'est rien que pouvoir s'imaginer debout en train de marcher. On le voit même avec ses béquilles. C'est juste fascinant de se dire qu'en dessous du genou, il n'y a plus rien qui marche. Et quand bien même, il tient debout Et il arrive à en plus, là pour nous, avec, sur le documentaire, à faire de la moto. Quoi. Donc c'est juste, il est juste incroyable, ce garçon.
Oui, parce que justement, après, on le voit aussi dans le documentaire, il passe donc à la natation. Il passe à la natation. Il devient un des meilleurs aussi athlètes parasport. Malheureusement, il est privé des Jeux en 2016 parce qu'il y a un petit changement concernant le règlement. Après, il se lance dans ce fou défi du Dakar où il arrive quand même en 2020 à gagner dans sa catégorie SSV devant des valides. Et après, il y a effectivement cette fameuse ligne droite de l'Enduropal du Touquet. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Hein. On ne lui a pas toujours donc facilité la tâche. Et il sort deuxième, quoi, avec des images très émouvantes.
Ouais, c'est ouais, la fin du documentaire est hyper émouvante. Moi, je l'ai revu encore. Bon, je l'ai vu 100 fois le film, mais là de l'avoir partagé récemment pour une avant-première, j'avais encore les frissons tellement c'est puissant. Alors ça, c'est la magie du sport, hein, parce que le sport génère des émotions comme aucune autre activité. Donc ça, c'est fantastique. Et oui, effectivement, ça a été un petit peu difficile. Déjà, nous, on a mis du temps à se mettre en route parce que pour des raisons de production. On n'a pas pu tourner tout de suite et donc du coup ça a retardé la mise en route même d'Axel, donc tout a été fait dans l'urgence parce que en gros il a tout activé en octobre pour l'enduro, c'est en février, donc c'est un temps record en plus, donc il a fallu convaincre l'organisation de l'Enduropal, il a fallu convaincre obtenir une licence auprès de la Fédération Française de Motocyclisme dans des temps records, sachant que voilà, avec son handicap, c'était juste hyper compliqué, donc ça a été très très compliqué. Puis après il y a eu des peurs de tous les sponsors, des gens qui se sont engagés en se disant mais oulala, mais où est-ce qu'on s'engage, parce que bon, comme il y va à fond et il a peur de rien, on le suit, mais tout d'un coup quand on fait un petit pas de recul et on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il va prendre le départ du Touquet devant 1300 pilotes, alors s'il tombe, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Et là, c'était justement au départ où on s'est vraiment rendu compte de l'aventure complètement folle qu'il était en train de faire. Quoi.
Et vous, il vous transcende hein, régulièrement à son contact ?
Évidemment, je connais pas d'autres. Enfin, tout le monde, c'est automatique presque, parce que il a un pouvoir. Moi, je suis allé avec lui, je l'ai suivi en Arabie Saoudite parce qu'il donne des conférences.
C'est pour ça qu'on peut pas l'avoir ce soir. Ouais.
Voilà, il est essentiel. L'essentiel de son temps est effectivement consacré aux conférences. Et donc d'assister à cette conférence, alors que bon, moi, ça faisait presque 6 mois que je travaillais sur son histoire, je la connaissais par cœur. Et il raconte son histoire au public. Et là, moi, j'étais fasciné. J'avais des frissons. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Il a un charisme hors norme et il emmène, quoi. Au-delà de son histoire, il a un truc en plus, quoi. Parce que des histoires comme la sienne, il en existe beaucoup, surtout dans le monde du motocross, où il y a quand même beaucoup de gens qui sont malheureusement, qui ont subi des accidents et qui se retrouvent dans la situation d'Axel. Mais il a ce truc-là de charismatique qui emmène tout le monde.
Oui, et puis bien entouré quand même, on le voit dans le film, par sa famille, hein, sa compagne, ses enfants, également donc sa kiné, son mécano, et puis d'autres personnes de son entourage très proche. Hein.
Tout à fait. C'est très précieux pour lui.
Et
son docteur. Oui, tout à fait. C'est son team, comme il l'appelle.
Ouais. Et qu'on pourra d'ailleurs entendre en interview, parce que lui ne croit, après notre direct, parce que lui ne croyait pas du tout à ce qu'il remarcherait un jour, ce qui est complètement fou quand même.
Oui, c'est complètement fou. Et quand il a vu la radio la première fois de sa colonne vertébrale brisée en deux, il s'est dit, enfin lui, il a l'habitude, c'est son travail, mais il s'est dit, voilà, donc Axel sera dans un fauteuil toute sa vie. Il n'y avait pas d'autre issue, en fait, vu les lésions, parce qu'en gros, tout ce qu'il y avait en dessous de la colonne vertébrale était normalement complètement paralysé. Mmh. Et à force de travail et de projection mentale, encore une fois, parce que c'est un truc qu'ont les sportifs de haut niveau, hein, de se projeter en anticipant les courses. Mais lui, c'était pas la course, c'était sa rééducation. Et donc il y a eu beaucoup de frictions, hein, avec le docteur Khaled parce qu'ils étaient opposés, qu'Axel fonçait, que lui il devait sans cesse le retenir. Il en faisait toujours plus. Donc il était à la fois inquiet aussi parce qu'il y avait un risque de blessure à vouloir trop en faire. Mais bon, à la fin, ça a payé et Axel a pu se remettre debout.
Oui, et puis entre nous, quand même, il y a eu des petits moments de coup de blues.
Pendant le tournage ou pendant, sa vie de...
Oui, pendant le tournage, à son contact, il n'y a pas eu des petits moments de découragement très brefs, très succincts.
Bah, il ne montre pas. Ouais. Il a ce truc-là parce que le plus dur pour lui, hein, je m'en suis rendu compte, c'est au moment où pour passer la licence, avoir la licence pour participer à l'enduro, il avait deux épreuves, en gros, prouver que... Malgré son handicap, il pouvait faire de la moto, donc ça c'était facile. Mais le deuxième challenge, c'était de pouvoir remonter
la moto en
cas d'accident. Voilà, s'il tombe, pour pouvoir se relever et repartir le plus vite possible pour éviter un suraccident ou qu'on lui roule dessus. Et en fait, il était persuadé qu'il n'y arriverait pas. Donc, il nous a pas dit et il s'est pas entraîné. Ah ouais. Parce qu'il s'est dit, si je n'y arrive pas, je vais me projeter en ne pas y arrivant, et donc potentiellement tout le projet tombe à l'eau. Et il a préféré attendre le moment de l'examinateur, là, le jour J, pour essayer de remonter cette fameuse moto. Et c'est une grosse galère, hein. ça a été très difficile. Et tout d'un coup, il a trouvé, avec l'aide de son mécano,
il s'est mis à genoux.
Et là, tout d'un coup, d'ailleurs, dans le film, ça paraît... On dirait qu'il lève une plume tellement c'est léger, alors que vraiment il n'a aucun muscle, hein, qui lui permette de relever la moto. Mais voilà, ce moment-là était incroyable et je suis allé le voir. Après, j'ai dit mais comment ça se fait que tu t'es pas préparé? Donc voilà, il m'a expliqué pourquoi il a préféré être dans le positif plutôt qu'imaginer un éventuel échec.
Ouais. Alors ensuite, c'est pas fini parce que ce week-end, il a encore réalisé son fou défi. Il a réussi à faire les 70 km du Paris-Roubaix-Challenge pour justement la fondation de l'Institut du Cerveau, hein, dirigé par Olivier Goy. Et donc, il a pu rapporter ainsi 10 500 euros au total. Nouveau défi gagné.
Voilà, ben c'est sa vie, quoi. Ah, oui. Il va faire ça. Son prochain défi, bon, on ne sait jamais avec lui, ça change tout le temps.
J'allais le demander, justement.
Oui, je ne sais pas, il m'en a pas encore parlé. Je sais qu'il a pour lui, là, le défi, le plus grand défi qui lui reste à faire, c'est ses enfants, en fait, ses deux garçons. Je crois qu'il va en faire quand même les aider, en tout cas, à être des champions. Donc, ce ne sera pas de la moto, évidemment, parce que là, je crois qu'ils ont donné. Mais je sais qu'il les a mis sur des cartes, donc l'objectif c'est plutôt les quatre roues, peut-être la Formule 1.
Y avoir le ski aussi, il peut y avoir des défis à ski en bateau, pourquoi pas aussi le parachutisme, pourquoi pas.
Tout est ouvert, franchement. Je lui ai pas, alors là, comme il vient de terminer, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, était un peu au bout du rouleau, très fatigué parce que ça a eu un enchaînement. Paris-Roubaix, c'est quand même hyper fatigant, puis il a fallu gérer l'organisation et tout ça. Et donc, je n'ai pas de nouvelles quant à son prochain projet. Je voulais le laisser souffler avant de lui poser la question, mais à mon avis, comme c'est son moteur, il va vite nous sortir quelque chose du chapeau.
Oui, alors, ça veut dire qu'il y aura d'autres films qui arriveront sur la suite de ses aventures que vous ferez avec
Stéphanie? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas prévu. Celui-là est quand même, je le trouve assez accompli. Le projet était fou, donc plus raconter son histoire. Je ne pense pas qu'il aille plus haut en termes de défis. D'accord. Voilà, parce je pense qu'il a pris beaucoup de risques. Mm-hmm. Lui, il le dit lui-même. Et que il a ses enfants, sa femme, tout ça. Il ne va pas jouer avec le feu trop longtemps. Là, vraiment, ce défi du Touquet était complètement fou. C'était très, encore une fois, très risqué. Donc, moi, je lui conseille d'être un peu plus maître sage. Il a donné.
Est-ce qu'il va écouter?
Non, il n'écoute pas. Il n'écoute personne.
C'est ça.
Enfin, si, il doit écouter sa femme quand même.
Je pense qu'il doit.
Et ses parents, ils les écoutent, mais on voit bien dans le documentaire qu'ils ne les écoutent pas complètement non plus. Donc, il a défini ses objectifs et il fonce.
Oui, parce que justement, cette fameuse résilience, cette fameuse force mentale, c'est dans ses gènes, il est né avec?
Alors ça, il faudrait lui poser la question. Je pense pas. Je pense que ça s'apprend. C'est vraiment un exercice. Hein. C'est un exercice de tous les jours, de cette faculté de se projeter, d'anticiper les choses, d'y penser, de projeter des idées ou des réussites. Faudra lui poser la question. Je pense pas qu'on est avec ça. Je pense qu'on le développe au fil du temps.
Mmh. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont éternellement optimiste quand même, hein, de nature, au départ.
C'est vrai, Mais je pense qu'il est comme ça, lui.
Oui, oui.
Parce que même sur son lit d'hôpital, il a eu un creux de 5 minutes.
Oui.
Enfin, j'exagère, hein. Ça devait être un peu plus long, mais très, très vite, il a rebondi. D'ailleurs, il le raconte dans le film. Enfin, en tout cas, sa kiné le docteur Khaled, quoi. Il hallucine du sourire d'Axel. Et puis, il n'a jamais perdu son côté positif. Et pourtant, Dieu sait qu'il était entouré, pardon, parce que c'est difficile, hein, un centre de rééducation. Il y a des gens qui baissent les bras, il y a beaucoup de négatifs. Et malgré ça, il a foncé. Donc, il est très déterminé.
Oui, oui. Alors, vous l'avez dit, maintenant, il donne des conférences un petit peu partout en France et puis dans le monde.
Hein. Oui, oui, oui. C'est des moments très émouvants pour l'avoir vécu, très inspirants. Alors c'est beaucoup dans le monde de l'entreprise, mais comme il dit, voilà, il permet à certains qui assistent à ces conférences de se révéler, donc qui vont, ça va déclencher chez eux un dépassement, une force qu'ils n'avaient pas soupçonné, parce qu'effectivement quand on est confronté à une telle histoire, tout d'un coup on se remet en question. Hein, on décentre un peu et puis on se dit « Ah ouais, non, mais quand même, il y en a qui ont une vie juste hors norme et hyper difficile et moi, je me plains de mes petits trucs. » Et ça me donne l'énergie nécessaire pour pouvoir aller un peu plus loin dans ma vie et ouvrir les yeux sur des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Parce que Axel, sa grande phrase, c'est « Rien n'est impossible ».
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est fantastique parce qu'effectivement, on se met beaucoup de barrières. Ça, pour le coup, ça c'est son père qui l'a éduqué comme ça, hein, en ne posant pas de limites dans toute sa vie. Donc, s'il veut devenir un champion, vas-y, deviens un champion, il n'y a pas de problème. Alors que c'est vrai que l'être humain a plutôt tendance à se mettre des barrières. Voilà, lui, il fait sauter ses barrières et il nous inspire tous. Et donc, c'est pour ça que ces conférences sont un moment exceptionnel.
Oui, alors Fabien, ce n'est pas le premier film que vous avez fait sur le sport et l'handisport. Vous aviez fait avant un film, je crois, fin 2023, sur le handicap déjà. Hein.
Oui, tout à fait. Ça s'appelait De l'or dans les yeux. C'était pour France Télévisions. Oui. Et là, c'était un événement olympique qui s'appelle les Spéciales Olympiques, qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap mental. Ce sont des jeux, donc on est allé à Berlin filmer ces jeux où il y avait 7000 participants, enfin il y avait énormément de monde. C'est très peu connu en France, ces jeux-là ont été créés par la famille Kennedy, ouais. Donc dans les années 60, pour leur petite sœur Rosemary, qui avait une déficience intellectuelle. Et donc, à l'époque, on cachait ces pauvres enfants. On avait décrété qu'ils étaient capables de rien faire, en fait. Le sport, en fait, a permis, encore une fois, de prouver au monde entier qu'ils avaient une existence et qu'il valait le coup d'être vécu, malgré leur handicap. Et donc, ces jeux-là mettent en avant... C'est le pouvoir du sport, hein, parce que c'est ça aussi, même malgré l'incapacité de faire des performances, hein, parce que il y a plein d'athlètes qui sont pas en capacité intellectuelle de faire des performances, mais le simple fait de participer et de se dépasser, parce que ça raconte ça, c'est exceptionnel et assez magique, et puis être au contact de tous ces gens. Enfin, c'était juste un moment exceptionnel. Ouais.
Ouais, et donc, justement, pour finir, vous pensez que le regard change avec le succès aussi des Jeux paralympiques et tous ces films, hein, sur Axel et puis tous ces athlètes handicapés. Vous pensez qu'aujourd'hui, on a un autre regard un petit peu différent, que ça bouge?
Alors moi, j'ai la sensation que c'est par vagues.
Oui.
Et que oui, alors ça touche beaucoup les cœurs de voir toutes ces personnes. Ça, tout d'un coup, on a une grande émotion, même avec le cinéma, hein, que ce soit un petit truc en plus. Il y a quand même 10 millions de personnes qui sont allées voir, qui ont été touchées par ces gens. Je crains que parfois, on se replie très vite dans nos coquilles. Mais ça bouge, voilà, c'est par vagues. Alors ça ouvre des portes, elles se referment. Notre travail, c'est de les réouvrir aussi pour redonner de la visibilité. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de voir la maladie ou le handicap ou la mort, c'est des choses qui font peur et qui dérangent. Et donc, voilà, tout notre travail consiste à ça, à essayer de remettre un peu le projecteur quand on peut, quand c'est possible. Et puis, on voit qu'en plus, ça fait des... Effectivement, que ce soit les Jeux Paralympiques ou le cinéma, ça crée des événements populaires qui sont regardés par le plus grand nombre. Donc déjà, ça, c'est déjà une grande victoire.
Bien sûr. Merci en tout cas, Fabien. Pour finir, là, c'est quoi les prochains documentaires, même hors sport, hein?
Alors le prochain, celui-là, il est encore vraiment en stade de projet, hein, mais c'est un projet sur la génétique et le cancer.
D'accord.
Voilà, donc c'est un projet un petit peu costaud aussi, mais il y a beaucoup de lumière là-dedans aussi, donc c'est nécessaire. Ça c'est le prochain. J'espère qu'il est encore en phase d'écriture, mais c'est notre projet.
Bon, bah, vous nous en parlerez, hein. Très bien.
Oui, avec plaisir.
Allez,
avec plaisir.
Merci beaucoup, Fabien.
Merci à vous.
Énorme merci. Voilà donc pour ce documentaire sur, on l'a vu, un homme hors du commun, Axel Alétru, qui sortira donc ce lundi 17 avril à 21h sur Canal+. Et la projection avait été faite dans les studios de Media One le 3 avril dernier. Allez, on va écouter maintenant le docteur Khaled dans la suite de cette interview. Le docteur Khaled qui, effectivement, ne croyait pas une seule seconde à ce que donc Axel en marcherait. On l'écoute. Alors avec le docteur Khaled... Docteur, on a quand même affaire à un drôle de personnage avec Axel.
Totalement. Un drôle de personnage d'un point de vue l'explication de sa pathologie et comment il a récupéré et comment il a su se surpasser pour faire relever d'autres défis et d'autres challenges qui sont même exceptionnels pour des valides. Et donc moi, l'avoir connu en 2010, il m'a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges, cet homme-là. Et quelque part un peu, comme je disais au départ, je faisais les médecins qui voulaient contrôler son patient, lui poser des limites pour le protéger, au médecin qui a accompagné son patient avec enthousiasme. C'est une personne exceptionnelle à tout point de vue.
Sa force, c'est quoi? C'est son mental?
Absolument, parce que mécaniquement parlant, on a du mal à expliquer sa récupération et on a du mal aussi à expliquer les performances. L'évolution par la suite, après la rééducation initiale et les projets qu'il a montés. Donc c'est une explication qui, mécaniquement parlant, ça ne tient pas du tout, du tout. Mais je reviens à dire, en suivant Axel depuis des années, qu'il a un mental exceptionnel et qu'il a dominé totalement son corps, totalement sa moelle épinière. Il l'a surpassé quelque part un peu et lui a dit simplement, je suis le patron. C'est moi qui décide, c'est pas toi.
Oui. Parce que quand vous l'avez rencontré la première fois, il avait le sourire malgré son accident.
Ça, c'était choquant pour moi. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Parce que d'habitude, moi, ça fait des années que j'accompagne des patients. Lorsque je les reçois le premier jour, ils sont dans un état de dépression et de détresse psychologique énorme. Axel, je rentre le premier jour et je vois ce sourire beau en plus. C'est un jeune. Moi, j'étais scotché. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait un patient qui vient de subir un traumatisme, paraplégie, deux opérations graves, et je le vois le premier jour arriver chez moi avec le sourire? C'est rare, c'est même exceptionnel.
Oui. C'est un bon message à tous ceux qui connaissent un accident de la vie?
Absolument, totalement. Et d'ailleurs même moi-même, en tant que médecin, j'ai subi un traumatisme et j'ai failli être moi-même dans un état d'handicap. Et j'ai eu la chance d'être opéré rapidement. Et j'étais habité par l'esprit d'Axel, que j'ai à pratiquer sur moi-même. Et voilà les résultats.
Merci, docteur. Voilà, effectivement, un personnage incroyable hein, à travers le témoignage du docteur Khaled et de Fabien Bouillot. Et donc, le film, ça sera jeudi, naturellement, hein, jeudi 17 avril, à partir de 21h sur Canal+ Doc. Et je voulais avoir une petite pensée, comme malheureusement parler de handicap, pour mes amis de Vivre FM qui étaient venus, qui avaient été nos invités dans l'émission du 10 mars dernier et qui ont dû mettre malheureusement la clé sous la porte. Donc, je voulais avoir une pensée à eux qui vont être injustement privés de micro. Allez, la deuxième pause musicale. Ensuite, on va s'intéresser à la belle semaine du Paris Saint-Germain sur le foot. Et puis, l'abondant journal des sports. Ensuite, d'Alexandre. La musique avant.
You're not
Alors naturellement, cette émission, vous la retrouverez rapidement en podcast hein, sur nos différents réseaux sociaux, comme toutes celles, comme celle d'ailleurs de la semaine dernière à la maison du Honte de Créteil. On est en train de vous mettre tout ça en ligne. Je vais saluer, parce qu'on ne vous a pas encore entendu dans cette émission très dense, Vanessa. Ça va, Vanessa?
Très bien,
Philippe. Pleine forme, tu as passé un bon week-end au handball?
J'ai passé un très bon week-end avec hier le
j'y étais samedi, moi, et toi, tu y étais dimanche.
Et moi, dimanche, avec les matchs.
Comme ça, on va préparer un podcast spécial. Salut, exactement. Alexandre, ça va?
Salut Philippe, voilà. Ça va très bien.
Donc,
bonsoir à
tous. T'as un beau week-end de sport, toi.
Très beau voilà. Week-end de sport.
Et nous, on a vu une belle semaine de foot avec le Paris Saint-Germain. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe. Ouais. Bonsoir.
Bien rentré de Créteil la semaine dernière. Bien rentré de Créteil la semaine dernière.
Ouais, c'est nickel.
Ça va, très bien. Bon, bah, Stéphane, le Paris Saint-Germain, ils sont restés dans la lignée de leur match face à Liverpool. Hein, match parfait en s'imposant donc 3-1 contre Aston Villa.
Ouais, pas complètement parfait, parce qu'ils ont pris un but quand même. Quoi, oui. Qui est ce petit but qui, malgré tout, peut peut-être faire peser un peu de doute, même si, en fait, je pense qu'ils devraient encore gagner normalement à Birmingham demain.
Oui, moi je les vois gagner aussi à Aston Villa. Alors, ils sont dans la lignée des deux matchs face à Liverpool. Hein. On sait qu'il y a eu un déclic en phase de poule, ça a été le match contre Manchester City. Et après, une équipe qui joue sur une autre dimension. Sa force, c'est son collectif cette année?
Ouais, c'est son collectif. C'est pas que... Oui, c'est son collectif, mais vraiment au sens très très large du terme.
Ah oui.
C'est-à-dire c'est son collectif au sens... que, par exemple, que c'est un groupe qui est complètement complet. Qui
même
est
les attaquants défendent, hein. Même les attaquants doués voilà. Ou Carajvilla, ils défendent.
Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir plus large que ça, c'est que c'est un groupe qui est au complet et qui est vraiment, c'est le collectif, mais c'est tout, c'est-à-dire et la performance au complet. Moi, j'ai l'habitude, je dis par exemple que, contrairement toujours à contre-courant par rapport à ce qui peut-être se dit certains, un des symboles pour moi de cette équipe, c'est aussi Beraldo, le défenseur brésilien. Quoi. Il a beau être critiqué, et lui, il continue à être aussi un peu critiqué par certains médias, mais bon, c'est quand même la preuve qu'il a joué, je sais pas, 16 matchs ou 17 matchs, il était titulaire la semaine dernière, et puis finalement, ça a répondu présent. Quoi. Donc c'est un joueur, on a un joueur de 23 ans, je crois, 22 ans, qui est capable d'être un numéro 3 très performant dans l'axe, derrière Pacho et Marquinhos. Donc ça fait partie, c'est pour ça aussi que Marquinhos va être apte d'être sur le terrain demain. C'est pour ça que Marquinhos a pu sortir avant la fin du match à Anfield Road et être remplacé par Beraldo, par exemple. Donc ça veut dire que c'est ça, quand je dis collectif, c'est à tous les points de vue, quoi. C'est ces joueurs. Là, vous avez... les trois milieux actuellement qui tournent beaucoup, Ruiz, Vitinha et Neves. Et puis juste derrière, pas très loin au niveau, vous avez Zaïre Emery en attaque. C'est pareil, vous avez quatre choix qui sont quasiment identiques, ce qui permet à la fois d'être performant sur les gros matchs comme ça, mais à la fois aussi de faire souffler les joueurs et tout sans vraiment forcément diminuer l'équipe. Puis j'en parle, il y en a d'autres qui ont un peu moins joué, comme Mayulu, qui sont par exemple des joueurs très très Lucas Hernandez, qui sont des joueurs très intéressants. Donc c'est pour ça que c'est un projet, je pense, global qui permet aujourd'hui au Paris Saint-Germain d'arriver en quart de finale retour avec aucun blessé dans l'équipe, tout le monde sur le pont.
Oui, ils jouent sur les trois tableaux, comme encore l'Inter, et puis de Milan, et puis Barcelone. Mais Stéphane, c'est vrai que c'est une moyenne d'âge très jeune. Hein. On l'a vu, cette équipe, elle est une des plus jeunes de son histoire. Hein.
Bah oui, tout à fait.
Une moyenne d'âge très jeune. Hein. Je crois que 24 ou 25 ans de moyenne d'âge.
Oui, une des plus jeunes en Ligue des Champions, bien sûr. Hein. Si vous avez un match comme par exemple, je n'ai pas calculé la moyenne d'âge de du match aller, là où Marquinhos n'était pas là, parce qu'il y a Marquinhos qui a 30 ans, il y a Fabian Ruiz qui doit avoir 28, et puis,
puis après,
Lucas Hernandez, 28 aussi. Puis après, c'est tous des joueurs entre 20 et 23 ans. Quoi. Donc, c'est quand même assez... Peut-être Donnarumma aussi, qui a 25-26, mais sinon, c'est assez impressionnant. Et bon, quoi qu'il arrive cette année en Ligue des Champions. Il y aura toujours, bien sûr, les donneurs de leçons, ceux qui savent tout pour dire oui, c'est un échec parce que ceci, parce que cela. Quoi qu'il arrive, on sait qu'à mon avis, c'est parti pour durer. Quoi. Quand on a un effectif aussi jeune que ça et qu'on a un état d'esprit, une nouvelle philosophie, on se dit qu'il n'y a pas de raison que la saison prochaine, ça soit pas à peu près le même schéma avec des joueurs qui ont tous pris un an de plus, qui ont repris de l'expérience. Et ça sera que positif.
Oui, c'est aussi la réussite d'Enrique, l'entraîneur, qui avait été assez controversé l'année dernière.
Ouais, moi je trouve que c'est avant tout là, oui, c'est Enrique, avant tout ouais. la réussite d'Enrique, parce que c'est lui qui a su mettre ça en place, c'est lui qui a dû mettre ça en place. Alors il a été controversé l'année dernière. Disons que l'année dernière il n'y avait pas suffisamment de matière sur le terrain pour contrer ses détracteurs. Donc, on avait tendance à ou laisser parler les détracteurs, ou bien même, pour certains, les suivre, les approuver, quoi. Alors qu'aujourd'hui, même si on avait envie de continuer à penser qu'il répond mal aux journalistes, qu'il est un peu peut-être prétentieux, ou je ne sais pas ce qu'on peut dire, un peu excentrique et que ça ne va pas, bah, on se tait parce que bah, finalement, ça marche, et puis on peut rien dire à une équipe qui gagne, quoi. Donc voilà, maintenant, il faut accepter d'avoir failli peut-être ne pas passer le premier tour de la phase de ligue, d'avoir failli, d'avoir vécu des matchs un peu sales, entre guillemets, quoi, pour certains. Je pense par exemple au match contre Gérone, là, où c'était pas évident, même si on l'a justement, j'ai pris exprès un résultat positif, puisque ce match-là, finalement, Paris l'a gagné.
Oui.
C'était pas quand même le meilleur match de.
Ah non.
Bon, le pire, c'était peut-être Eindhoven, mais bon.
Oui, il y en a eu d'autres, hein, des moins bons. Hein.
Voilà, mais bon, il faut passer par là. C'est comme. Vous savez, c'est comme tout. Je pense que c'est. Je veux dire, c'est une formidable leçon d'humilité, je pense, pour tous les médias, pour tout le monde, quoi, parce que il faut aussi savoir payer pour ce qu'on veut, et le PSG a payé cette année avec en étant à deux doigts de pas passer la phase de ligue, en étant à deux doigts de pas mal d'autres choses, quoi, d'avoir été éliminé avant les deux derniers matchs en cas de défaite, quoi. Ça n'aurait pas été officiel, mais ça aurait été très probable contre Manchester City. Donc quand Paris perdait 2-0, et puis ça a été dur à accepter pour les médias, et tout le monde savait mieux que tout le monde. Paris a payé en se séparant de ces stars, de ces stars, que ça soit les stars par le nom et par le Neymar, Messi, Mbappé pour finir, mais aussi ces stars, les joueurs qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, comme Verratti par exemple, et voilà, et Paris a payé en faisant ça, et puis finalement c'est ce qui n'a pas été tout à fait pardonné dans un premier temps, et pour ça il faut avoir des très bons résultats, il faut avoir les très bons résultats de cette année, quoi, laisser une très bonne impression, oui. Et pas seulement aller en demi-finale comme c'était le cas l'année dernière. Mais moi je l'avais dit quand même, hein, gagner la Coupe de France, gagner le championnat et aller en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est quasiment en niveau statistique et résultat, c'était un des meilleurs peut-être le meilleur résultat du Paris Saint-Germain, quoi, de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc déjà l'année dernière, mais bon, effectivement, il n'y avait peut-être pas un jeu aussi beau et des voilà. Ouais.
Alors Stéphane, si Paris se qualifie, est-ce que Paris jouera Arsenal ou le Real Madrid en demi-finale, hein? On sait que un petit peu à la surprise générale, donc on ne s'attendait pas à ce que le Real soit battu aussi largement à Arsenal 3-0.
Ouais, bah moi je pense que je dirais que c'est possible que la menace du Real Madrid est tout à fait possible. C'est une équipe qui est capable de le faire, mais je ne pense pas qu'ils vont arriver à le faire. Oui. Je ne pense pas qu'ils vont y arriver parce que cette année, je pense qu'il y a trop de faiblesses dans cette équipe du Real Madrid. Il y a trop de points négatifs, et il faudrait vraiment qu'elle soit au sommet, et aujourd'hui l'équipe elle est très loin d'être au sommet. Alors, faudrait avoir les quatre joueurs offensifs, quoi, les quatre stars de l'équipe, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham, qui soient vraiment au summum de leur forme en même temps. Et surtout qu'ils ne prennent pas de but parce qu'ils sont très, très, très friables en défense, le Real Madrid. Donc, à mon avis, ça me paraît compliqué, mais ça me paraît très compliqué. Je ne pense pas qu'ils vont le faire, mais je pense que c'est tout à fait le genre de performance qui est, sur le papier, en tout cas, à la portée de l'équipe. Quoi.
Alors, l'autre demi-finale pourrait opposer et opposera probablement donc Barcelone, hein, net vainqueur de Dortmund 4-0, à peut-être l'Inter de Milan qui est en ballotage un petit peu favorable pour l'instant en ayant battu donc le Bayern 2-1 à Munich.
Ouais, mais ça moi, je prendrais pas de risque, hein, là-dessus. Ouais. Je prendrais pas de risque. Hein. Je sens que le Bayern est capable de. Alors, est tout à fait capable de le faire. Comme parce que l'Inter se retrouve aujourd'hui dans la même situation que le Paris Saint-Germain contre Liverpool, en fait, hein, avoir gagné à l'extérieur et au match aller. Mais bon, le Bayern, c'est une très grosse équipe et ça va jouer. Moi, là, je sens que c'est un peu comme le Real Madrid, sauf que je sens que le Real Madrid ne peut pas le faire. Mais ne va pas le faire parce qu'ils ne sont pas en capacité. Mais normalement, le club, sur le papier, ça peut arriver. Et par contre, le Bayern, c'est un peu pareil. Sur le papier, c'est rien d'avoir gagné à l'aller à un but d'écart. Et par contre, je pense que le Bayern est capable de le faire.
Très bien. On passe à la Ligue Europa avec le match très mitigé de Lyon qui a été tenu en échec par Manchester United 2-2.
Ouais. Bah là, ce qui pareil, quoi. Je pense que Lyon reste quand même favori, toujours, pour la qualification. Parce que c'est vrai que le Manchester, c'est quand même très, 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 très inquiétant, quand même, cette équipe. Son niveau est quand même assez désespérant. Mais après, bon, ça change pas beaucoup par rapport à avant le match aller, en fait. Hein. Qu'est-ce qui est pu se passer s'ils avaient gagné 1-0, 2-2, ou il y aurait eu 2-1 comme, ou il y aurait eu 2-1, il y aurait eu 2-1 pour Lyon. Je pense que ça aurait été un peu la même chose. On va voir. Moi, je suis hyper impatient de voir. On parle beaucoup par exemple de Ryan Cherki. Je suis impatient de voir un joueur comme ça dans un. On l'a très très peu vu dans ce contexte-là, Ryan Cherki, quoi. Mm-hmm. On l'a très très peu vu, quoi. Avec les Olympiques, par exemple, d'ailleurs, à l'image de Désiré Doué pour la campagne olympique, il a été très très peu utilisé par Thierry Henry dans la campagne olympique. Donc des gros matchs, Lyon n'en a pas joué vraiment là pour l'instant, si ce n'est celui-là, donc le match aller où ça a été un peu. Et certes, il marque à la fin, mais bon, il fait des belles choses. On va voir dans un contexte, un stade comme Old Trafford et tout, on va voir ce qu'il est capable de faire. S'il est vraiment aussi bon, c'est un vrai test. C'est un vrai test. Hein, ouais. Je sais que Philippe, tous les sélectionneurs, je me rappellerai tout le temps, qui m'a marqué à vie, c'était pour Thierry Henry avec Monaco à l'époque, avant d'être.
Wenger.
Ouais, non, c'était Aimé Jacquet qui l'avait appelé en équipe de France.
Oui.
Au lendemain d'un Juventus-Monaco ou Monaco-Juventus où il avait fait un grand match. Oui. Et puis Jacquet, il avait dit, voilà, ce qu'on attend, c'est ça, quoi. Mmh. On attend la performance des joueurs sur la scène européenne. Donc, Ryan Cherki, je pense que Ryan Cherki, il a un grand rendez-vous avec son destin, avec son avenir jeudi, quoi. S'il est, c'est pas pour ça qu'il va qualifier Lyon à lui tout seul, parce qu'il pourra pas qualifier Lyon à lui tout seul. Mais s'il fait un grand match, je pense qu'il y a des chances qu'on le voit rapidement en équipe de France ou quelque part si ça se passe pas très bien, parce qu'au match aller, on peut pas dire que Cherki a fait un grand match, quoi. Il a marqué le but de l'égalisation sur un ballon sur un peu une boulette de Onana qui repousse le ballon, mais il a pas fait non plus un grand match, quoi. Donc moi j'attends ça.
D'accord, alors on va très brièvement rappeler aussi que le Bodo Glimt a battu l'Lazio de Rome 2-0. Les Glasgow Rangers ont partagé le nul contre l'Atlético de Bilbao 0-0 et Tottenham Francfort 1-1. Allez, 29e journée du championnat, sans le match de Nantes-Paris-Saint-Germain qui sera joué le 22 avril. Il s'est encore passé des choses dans cette journée de championnat, puisque Reims a gagné à Lens 2-0. C'est peut-être le match qui va leur permettre de se maintenir. Marseille s'enfonce à nouveau dans la crise, battu nettement à Monaco 3-0. Victoire de Lille qui renoue avec la victoire à Toulouse 2-1. Nul entre Strasbourg et Nice 2-2. Petit couac donc pour les Strasbourgeois. Brest-Saint-Etienne, un match à but. Plutôt Saint-Etienne-Brest, un match à but 3-3. Nette victoire de Rennes au Havre 5-1, victoire de Angers qui condamne définitivement Montpellier 2-0, et puis Lyon qui va gagner et qui se replace pour l'Europe, donc Lyon qui va gagner à Auxerre 3-1, donc Paris en tête avec 74 points devant Monaco 53, 3e Marseille 52, 4e Lyon, on en parlait, 51, et 5e Lille et Strasbourg avec 50 points, et en bas de tableau donc 13e Nantes, Angers 30 points, 15e Reims 29 points, 17e Le Havre 27 points, 17e Saint-Etienne, 24 points, et 18e Montpellier, 15 points. Un petit mot sur cette 29e journée, Stéphane ?
Ouais, bah la 29e journée, ce qu'on peut ressentir en priorité, c'est que pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a souvent eu, même encore d'ailleurs cette journée, hein, quoi, c'était un peu parti comme ça, les poursuivants, en fait, oui. N'arrivent pas à faire la différence. Non. C'est pareil dans le bas de tableau, par exemple. Le Havre pouvait battre Rennes. Passer, donc remettre si Reims se sauve, ça va être bien sûr parce qu'ils ont gagné à Lens, mais c'est aussi parce que les autres derrière sont faibles, quoi. Ils sont incapables de gagner, quoi. Saint-Etienne a été incapable de battre Brest, et puis Le Havre a été incapable de battre Rennes. Donc je pense que c'est alors qu'ils étaient tous les deux en possibilité justement de saisir en chance, quoi. Surtout pour Le Havre. Pour le haut de tableau, c'est un peu différent. Maintenant, vous avez une équipe comme Marseille qui est 3e, donc avec 52 points. Mais la grande différence, c'est que vous avez maintenant 3 équipes qui sont tout proches. C'est-à-dire que vous avez Lyon, Lille et l'autre, c'est Strasbourg, c'est ça ?
Strasbourg. Il y a Monaco, Marseille, Lyon, Lille et Strasbourg en 3 points.
Voilà. Donc, ce qui veut dire que si jamais Marseille se rate, s'ils veulent garder leur 3e place, déjà, pour commencer, il faudra aussi que Lyon, Strasbourg et Lille se rate aussi, quoi. Ouais. Donc ça va être de plus en plus compliqué de compter sur les bon, c'est sûr qu'il y a Strasbourg Monaco les Monaco Strasbourg le week-end prochain, mais ça va être de plus en plus compliqué d'espérer rester à une place uniquement parce que les autres n'avancent pas derrière, quoi. C'est-à-dire que sur Strasbourg Lyon et Lille, il y en a peut-être un des trois qui va réussir à faire une performance, quoi. Ouais. Et s'il y en a un des trois qui fait une performance, bah, tout de suite, l'Olympique de Marseille va encore perdre une place. Si jamais il se rate, maintenant, il reçoit Montpellier. Donc,
C'est ça qui est passionnant. Hein. Il va y avoir la lutte pour les places d'Europe et puis les descentes, ou avec des équipes qui, d'un week-end à l'autre, n'ont pas forcément les mêmes résultats. Ça va être passionnant. Allez, 30e journée de Ligue 2. Là, par contre, ça a été le statu quo avec la victoire de Lorient à Guingamp 2-1, celle du Paris FC à Grenoble 2-1 et Metz qui est allé gagner à Martigues 4-1. À noter la nouvelle défaite de Dunkerque dans le derby du Nord, donc à Amiens 1-0. Défaite du Restart à domicile devant Annecy 1-0. Et puis pour le bas de classement, Pau Clermont Machoul 2-2. Et victoire importante de Rodez devant. Machoul aussi de Rodez devant Caen 2-2. Donc Lorient en tête 64. Devant deuxième le PFC 61. Troisième Metz 60 points. Quatrième Dunkerque 51 et cinquième Guingamp 50 points. Et en bas de tableau, donc 16e Clermont et Martigues avec 28 points. Et le 18e, c'est Caen, 21 points. À noter que pour le Restart, qui est 15e avec 34 points, il y a seulement 4 points d'écart avec l'AC Ajaccio et Pau qui sont 10e et 11e avec 38 points. C'est quand même très compact. Hein.
Ouais, c'est très compact. Maintenant, ça se dégage quand même un petit peu. Quand on regarde, on n'a pas forcément l'impression qu'on se dit c'est possible. Mais bon, quand vous regardez les statistiques, un championnat à 18 clubs, souvent à 33 points, à 33 points, on est sauvé. Hein. 33, 34, quoi. Donc le Red Star, par exemple, je pense, doit en avoir 35.
Oui, ça devrait être bon.
Ouais. Ou 34,
ils,
je sais
sont
pas.
34 le retard, 34 points.
À 34, ouais. Alors, peut-être ouais. encore eux, mais bon, Marty, Clermont, je pense que le, bah, par exemple pour Odès, quand on a 36, je pense que le point du match nul qu'ils ont arraché dans les arrêts de jeu peut leur suffire pour leur assurer le maintien, même s'ils ont un parcours très difficile, puisqu'ils vont jouer le Paris FC, Metz ouais. et les joueurs ouais. à Laval, je crois aussi. Donc, bref. Mais, et puis, bon, bah, quand par contre, les carottes sont presque cuites, c'est pas fini, mais ça dépend pas que d'eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils battent Martigues le prochain match, par exemple, et que Clermont ne gagne pas son match. Quoi. Donc là, éventuellement, ils reviendraient à 3 ou 4 points de la fin. Ils pourraient espérer, rêver, et le barrage, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Quoi. Ouais. Mais en règle générale, je pense qu'à 35 points, je pense qu'en règle générale, à 35 points, on est sauvé. Même si, quand on regarde comme ça, on dit, bah non, il pourrait peut-être quand même descendre. Mais bon, je pense qu'à 35 points, on est sauvé. Donc, c'est-à-dire que ça réduit un peu le nombre d'équipes. Effectivement, Caen, c'est quasiment cuit. Martigues, ça va être très compliqué. Et puis.
Clermont, c'est aussi difficile. Allez, 29e journée de National. On va le faire assez rapidement. Nancy a battu Châteauroux 1-0. Boulogne-sur-Mer et est allé faire nul à Concarneau 1-1. Victoire du Mans devant Orléans 2-1. Dijon qui va s'imposer à Versailles 3-2. Et le Paris Atlético Machul donc à Aubagne 1-1. Donc Nancy en tête avec 52 points. Devant Le Mans et Boulogne-sur-Mer 48 points. Et Dijon maintenant qui est 4e avec 40 points. Et en bas de classement, donc 12e Villefranche-en-Beaujolais 32 points. 13e Quevilly-Hérault en 31 points. 14e Versailles, 30 points. 15e Le Paris, 13 Atletico, 29 points. 16e Nîmes, 27 points. Et 17e Châteauroux, 25 points. On va rappeler que Villefranche, en Beaujolais et Versailles n'ont pas encore été exemptés de leur match. Et puis un petit mot chez les féminines pour rappeler quand même la victoire de l'équipe de France devant la Norvège, 2-0. L'équipe de France donc largement en tête pour sa poule de Ligue des Nations avec 12 points. Devant la Norvège, 4 points. 3e l'Islande, 3 points. 4e la Suisse, 2 points. Il y aura France-Suisse le 30 mai et Islande-France le 3 juin. Et puis pour la 20e journée de championnat, où on a d'ailleurs honoré Gaëtan Tinet, Lyon et le Paris FC ont fait match nul de 2. Victoire du PSG à Sénette devant Reims 6-0 et de Dijon qui a battu Saint-Etienne 1-0. Pas de changement, toujours les 4 équipes premières. Lyon avec 56 points devant le Paris Saint-Germain, 2e 48. 3e le PFC 42 et 4e Dijon 39 points. Brièvement, un petit analyse sur le national et ses féminines.
Le national, c'est surtout la lutte terrible entre Le Mans et Boulogne. Quoi. Oui. On n'a pas le droit. Alors, ça, c'est vraiment une lutte à l'usure. Hein. Je ne saurais pas dire franchement qui va passer maintenant, qui va être deuxième. Maintenant, on peut dire que il y a des signes positifs pour le Paris Atlético 13, hein, je pense, quand même, par rapport à ça. Ils ont déjà été exempts. Je pense que là, on rappelle quand même que là, il n'y a que 2 descentes. Hein, c'est ça. Le 17e et le 16e. Et donc là, ils sont 15e, ils sont juste au-dessus de la ligne rouge. Ils ont un match de plus à jouer, du coup, que Versailles et Nîmes, c'est ça. Donc, Nîmes est derrière, mais que Versailles, en tout cas. Donc, ça peut être chaud
c'est
pour Versailles.
Très bien. Eh ben, on verra ça. Merci Stéphane pour cet abondant point foot. Alors, la semaine prochaine, c'est pas qu'il n'y a pas d'émission, mais on se retrouve dans 15 jours. On pourra largement décortiquer la deuxième semaine de Coupe d'Europe et la suite de ces championnats. Merci beaucoup Stéphane.
Allez,
à très bientôt. Voilà. As-tu foot très dense et aussi, quel week-end de sport.
Et oui,
on s'est régalé sur Paris-Roubaix. Hein.
On s'est Paris-Roubaix avec la victoire de Van der Poel devant Tadej Pogacar et Mats Pedersen.
Quel spectacle, quelle bagarre.
Premier français du classement, c'est Florian Dauphin qui termine 25e. Et chez les femmes,
oui, Pauline.
Pauline Ferrand-Prévot qui a remporté en solitaire la 5e édition du Paris-Roubaix féminin.
Et elle était tombée en plus.
Une minute d'avance sur l'Italienne Laetitia Borghesi et la Néerlandaise Lorena Wiebes. En athlétisme, c'est le Kenyan Benar Biwott et l'Éthiopienne Bedatu Irpa qui remportent l'édition 2025 du Marathon de Paris. Ouais,
grand événement aussi, grand énorme événement.
Hein. Ouais. Il y a une demande de mariage en plein milieu du marathon.
Ça arrive souvent.
L'équipe de France a réussi le doublé sur les 10 km hommes des championnats d'Europe de running ce dimanche 13 avril à Louvain. Jan Schreub a été titré devant son compatriote Étienne Daguinos. Derrière Isaac Kimeli en bronze, on retrouve un troisième français, Fabien Palco, qui permet aux Bleus de gagner le titre par équipe, 7 médailles au total. Ouais. Mmh. En Formule 1, c'était un bon week-end de Formule 1, puisque Oscar Piastri remporte le Grand Prix de Bahreïn, suivi par George Russell et Lando Norris. Leclerc Hamilton termine 4 et 5e, Verstappen finit 6e, et Philippe, enfin Pierre Gasly, pour Alpine, termine 7e. Permet à l'écurie française de passer 9e à égalité de points avec Kixhauber. Dans le haut du classement, on retrouve McLaren leader avec 151 points, Mercedes 2e avec 93 points et Red Bull 3e avec 71 points. En moto, Grand Prix de Losail au Qatar, et Marc Marquez a remporté la course devant Francesco Bagnaia et Franco Morbidelli. Johan Zarco, le français, finit 4e et au classement des constructeurs, Ducati est toujours leader. En tennis, résultat du tournoi ATP de Monte Carlo.
Ça sent bon Roland Garros.
Et oui, ça sent bon Roland Garros. Carlos Alcaraz a gagné en finale contre un Musetti diminué, 3-6, 6-1, 6-0. C'est le premier Monte Carlo de sa carrière. Et grâce à cette victoire, l'Espagnol reprend la deuxième place du classement ATP. En rugby, on jouait ce week-end les quarts de finale de Coupe des Champions. Leinster corrige Glasgow 52-0. Castres Olympique a perdu contre Northampton 52-16. Bordeaux-Bègles a gagné 47-29 contre Munster. Et le Stade Toulousain, dans le fameux derby, a gagné contre Toulon 21-18. Sur le fil, ouais. On aura forcément un club français en finale, puisque le Stade Toulousain affronte Bordeaux-Bègles en demi-finale. Et de l'autre côté, on aura Leinster contre Northampton. Dans l'autre petite coupe européenne, le Challenge Cup, on a aussi deux clubs français en demi-finale. Lyon affrontera le Racing 92 et Edimbourg affrontera Basse.
C'est l'équivalent de la Ligue Europa pour le rugby.
Exactement. Voilà. Ouais. On avait aussi la troisième journée du tournoi Destination Féminin et les Françaises ont gagné sans trop de détails contre le Pays de Galles 42-12. L'Angleterre a battu l'Irlande 49-5 et l'Italie a battu l'Écosse 25-17. Au classement, l'Angleterre est leader avec 15 points, la France est deuxième avec 14 points, l'Irlande troisième avec 5 points, l'Italie quatrième 5 points, l'Écosse cinquième 4 points et le Pays de Galles sixième 1 point. En basket, 34e journée cette semaine d'Euroleague et c'était la dernière. Monaco a gagné 83-78 contre Lyon-Villeurbanne et Paris a gagné 72-63 contre Berlin. Donc c'est fini pour Lyon-Villeurbanne, ça on le savait déjà. Mais le Paris Basket affrontera le Real Madrid en play-in. Premier match le 15 avril à 21h et Monaco jouera en quart de finale contre Barcelone. Premier match le 25 avril à 18h. En championnat, résultat de la 27e journée. Et si le Paris Basket a gagné 98-91 contre Bourg-en-Bresse, Nanterre a perdu contre Cholet 88-78. Au classement, les Parisiens sont toujours deuxième derrière Monaco et Nanterre et onzième. En handball, pas de championnat féminin ce week-end, mais 23e journée chez les hommes. Le PSG a gagné 36-25 contre Toulouse. Montpellier a gagné 38-26 contre Créteil. Et attention Philippe, Ivry a gagné 35-34 enfin contre le Pays d'Aix. Ivry remonte et est toujours dernier, mais à 4 points du Cesson Rennes et 5 points de Créteil 14e. Donc on peut y croire pour Ivry. Paris est toujours leader à 3 points devant Nantes. En volley, les filles de Levallois-Paris se sont qualifiées pour les demi-finales de play-off en gagnant 3-1 en cumulé contre Bordeaux. Elles affronteront Vendeuvre-Nancy, première manche le 20 avril à 17h. Et on termine ce journal des sports, ça n'a pas été encore 100% officialisé, mais Cyril Linette devrait vraisemblablement être nominé pour la direction générale des Alpes 2030.
On verra ça donc dans 15 jours. Merci en tout cas donc Alexandre, on ne l'a pas beaucoup entendu, mais on l'entendra mieux dans 15 jours. Merci Vanessa.
Merci hein, Philippe.
Pas d'émission
merci
la semaine prochaine.
Non.
Donc merci à Jason
dans 15 jours, avec plaisir.
Ouais, d'avoir été aux manettes pour cette émission très dense. Et on passe le témoin maintenant à nos amis au bout du foot qui vont probablement avoir beaucoup de choses à nous raconter. Belle soirée à toutes et à tous. Et on finit naturellement en musique. À dans 15 jours. Salut.
FA.